émission. Il est 13h29 minutes et il est temps de retourner à la Fondation Cartier où Stéphane Paoli est en direct et en public. La deuxième partie de 3D, c'est maintenant. C'est à vous Stéphane.
Merci Alice Le Sen. Et la deuxième partie de 3D, toujours autour de cette magnifique exposition sur les mathématiques à la Fondation Cartier. Le titre précis d'ailleurs, c'est « Mathématiques, un dépaysement soudain ». Eh bien, cette deuxième partie va être consacrée aux robots, qui sont les enfants des mathématiques, et puis aussi à la beauté, à l'esthétique et à la jubilation des mathématiques.
3D. Le journal de Stéphane Paoli.
Alors avant de donner la parole, d'abord, comme je vais vous présenter, Jean-Pierre Bourguignon, merci, bonjour d'abord.
Bonjour.
Merci à vous d'être ici, vous êtes mathématicien, chercheur au CNRS, directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, et vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Vous avez travaillé en amont avec Hervé Chandès, avec Michel Cassé, avec d'autres, pour vous interroger sur, comme Gromov, quelle est la bonne question pour présenter les mathématiques. Et à vos côtés, un jeune chercheur, oui, vraiment tout jeune, à peine 34 ans, Pierre-Yves Houdayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes informaticien, vous êtes roboticien, vous êtes chercheur à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, c'est ça?
Oui, c'est un institut qui fait des recherches dans toutes les sciences et les technologies du numérique.
Et Dieu sait que vous avancez vite dans ce domaine. Vous êtes responsable d'une équipe qui s'appelle Flowers. On va parler des robots avec vous dans un instant. Et certains des robots que vous avez conçus sont ici présents, gesticulants, singuliers, nous regardent avec des mouvements très intrigants. La confrontation avec les robots ici à la Fondation Cartier, c'est franchement un moment qui pose beaucoup de questions. On va y revenir. Mais d'abord, mon cher Jean Pierrot, quelques définitions des mathématiques, incluant d'ailleurs la question des robots. Hein.
Oui, j'ai fait une marche. La marche des maths qui nous mène de l'auto-maths au robot.
suivons le parcours de Jean Pierrot.
L'âge des mathématiques, ça a commencé quand?
Bien avant.
Qu'est-ce qu'un algorithme?
C'est le rythme des algues.
La démocratie serait-elle possible sans les mathématiques?
Rien n'est possible sans les mathématiques.
Sans arithmétique, ça serait difficile.
Il faut quand même compter les voix.
Et qu'on téléphone.
Et qu'on télégraphe.
Ça guérit de quoi, les maths?
Des calculs? Des maladies de foie?
Y a-t-il une matière matheuse?
Oui, ça s'appelle la matière grise.
Le primat,
la médaille Field.
C'est le signe, parce que le signe, c'est l'anagramme de singe.
Le principe de l'automate.
Le principe de l'automate, c'est compter sur soi.
Si on va dans le dos de l'automate, on s'aperçoit qu'il a une clé. Alors que le robot, lui, il a sa vie de robot, quoi. Tranquille, il fait des petits...
Qu'est-ce qu'un automate?
Un automate, c'est un robot plein de maths.
Et les drones?
Les drones sont des robots volants, des monstres froids.
Et les hippodrones?
Ah, les hippodrones sont des robots courants.
Les robots, c'est que des maths?
Les robots, c'est beaucoup des maths. C'est des maths, des algorithmes et peut-être des règles. Les règles des robots d'Asimov qui sont en train d'être oubliées par les militaires. Aujourd'hui, le problème, c'est de fabriquer un robot capable de fabriquer un robot. Un robot auto-engendré. Un robot capable de s'améliorer de génération en génération, d'être de plus en plus puissant, intelligent, mobile.
Un re-robot.
Un re-robot. Il faut se souvenir que le mot robot, ça vient du tchèque, et ça veut dire travailler.
Il n'y a pas de robot glandeur.
Exactement, c'est le golem. Tout ce qui est travail nous vient de Tchécoslovaquie.
Pierre-Yves Houdayer, je rappelle donc que les robots, c'est vraiment votre affaire. Quand on entend à une des questions de Jean Pierrot répondre que, au fond, l'automate, automate, parce que Jean joue sur la césure, automate, c'est d'abord compter sur soi. C'est pas une si mauvaise définition, hein?
Oui, effectivement, parce que une question centrale de la robotique, c'est de comment construire des machines dotées d'une certaine autonomie, c'est-à-dire capables, à partir d'un certain nombre d'observations qu'elles font sur leur environnement, avec des outils, des capteurs, eh bien de calculer une réponse qui peut se transformer en un mouvement, en une parole, en une opération interne, en le déclenchement d'une interaction avec quelqu'un d'autre, mais de manière autonome.
Mais là, c'est là où ça devient très vite vertigineux. C'est une question passionnante. Car l'un des enjeux de votre recherche, c'est d'introduire dans ces machines ce que nous, les humains, ce que nous appelons la curiosité. Or, la curiosité, pour moi et pour beaucoup d'autres, j'imagine, elle est sans limite, elle est sans fin. Quand on commence à dire pourquoi, ça ne s'arrête plus jamais. Et on finit même par dire pourquoi. Donc, qu'est-ce que la curiosité va donner de plus aux robots?
Alors en fait, l'enjeu principal, c'est pas d'introduire de la curiosité dans des robots, c'est d'abord de poser une question fondamentale. Est-ce qu'une machine, est-ce qu'un robot peut apprendre comme un enfant? Et en posant cette question, eh bien, on pose évidemment la question, qu'est-ce que c'est qu'apprendre comme un enfant? On va utiliser des robots comme des outils expérimentaux et conceptuels pour expérimenter les mécanismes qui permettent ou qui peuvent permettre à un organisme de découvrir progressivement son corps, les relations entre son corps et son environnement physique, par exemple apprendre à attraper, à pousser un objet, et les relations entre son corps et l'environnement social, c'est-à-dire découvrir qu'on peut, il y a certains objets, entre guillemets, dans notre environnement qui ne sont pas comme les autres, qu'au bout d'un moment on découvrira qu'on peut appeler les autres, et avec lesquels on peut apprendre un certain nombre d'éléments de langage, par exemple. Alors, les mécanismes du développement de l'enfant, les mécanismes de la pensée et du comportement sont probablement les mécanismes et les structures les plus complexes de l'univers connu.
Le babillage, vous vous êtes beaucoup intéressé au babillage des enfants.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire
au commencement,
dans le babillage?
Au commencement. Alors, c'est plus que le babillage, c'est le commencement. On a longtemps essayé de construire des machines capable de, par exemple, de jouer aux échecs pour essayer de reproduire, entre guillemets, l'intelligence des hommes en essayant de construire des machines capables de résoudre des problèmes dont on pensait pour un homme que s'il les résolvait, il était intelligent. Et puis on s'est aperçu que ça posait des problèmes extrêmement compliqués, que peut-être aujourd'hui on avait d'ailleurs des machines capables de battre les plus grands joueurs d'échecs aux machines, mais si on les met en face d'un jeu de dames, et puis en face d'un enfant de 5 ans, eh bien, même le meilleur ordinateur du monde qui joue aux échecs va être complètement désarçonné. Peut-être qu'il faut utiliser une autre approche pour mieux comprendre, mieux appréhender ce qu'est, par exemple, ce qu'on peut appeler l'intelligence, entre guillemets, parce que je ne sais pas véritablement ce que c'est que l'intelligence, personne ne sait ce que c'est que l'intelligence, il faut justement arriver à poser les bonnes questions. Une manière de poser cette question, c'est de poser la question de son origine, et une manière de faire des investigations sur son origine, eh bien, c'est de construire des modèles mathématiques, par exemple, qui souvent partent d'inspiration de modèles qui viennent de la psychologie ou de modèles qui viennent de la biologie, mais qu'il est nécessaire bien souvent d'implémenter dans des machines pour faire des expérimentations, parce qu'ils mettent en œuvre des systèmes compliqués qui mettent en interaction à l'intérieur du corps, par exemple, des milliers de neurones, des milliards de neurones, des organes extrêmement complexes, la physique du corps lui-même, le corps et son cerveau avec son environnement physique et social. Donc des interactions à différentes échelles d'espace et de temps qui sont telles que même si on arrive à modéliser localement, mathématiquement, un certain nombre d'éléments, il est difficile sur le papier avec un crayon d'en dériver le comportement. Et donc de la même manière que, par exemple, on investigue la formation des structures des galaxies, des spirales, ou par exemple en faisant des simulations informatiques, ou que par exemple on expérimente l'évolution du climat en faisant des simulations informatiques, eh bien on va expérimenter les mécanismes d'apprentissage et de développement moteur de l'enfant en construisant des robots.
Mais alors, vous avez posé une question qui est, elle aussi, d'une formidable et passionnante complexité. Vous vous dites, au fond, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Très bien. Alors maintenant, faisons un rêve, puisque Michel Cassé me disait qu'avec les mathématiciens, tout est possible. Faisons un rêve, ou peut-être même un cauchemar, d'ailleurs. Est-ce que vous avez, vous, les mathématiciens, évacué la question de la centralité? Ça n'a plus aucun sens. La question du centre est une question triviale, comme dirait Gromov. Est-ce qu'on peut imaginer que ces robots que vous concevez, que vous fabriquez, prenant une forme d'indépendance, je ne parle pas d'intelligence, d'indépendance, pourraient nous faire échapper à cet anthropomorphisme qui nous fait penser le monde en fonction d'une culture, d'une histoire, d'une imprégnation linguistique, artistique, tout ce qu'on veut? Est-ce que tout à coup, ce mécanisme que vous mettez à l'œuvre ailleurs, dans une machine, pourrait avoir une lecture du monde qui nous échappe et qui nous permette de voir autre chose. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est un fantasme d'échapper à notre anthropomorphisme. Comment penser le monde en dehors de notre cerveau?
Non seulement on peut l'imaginer, mais c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on fait en pratique. Effectivement, je rejoins une formulation qu'a expliqué Nicole El-Khaoui un petit peu plus tôt. Ce qui est intéressant en essayant de construire ce type de robot, c'est qu'il devienne une sorte d'abstraction qui nous permet de prendre du recul par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre propre conception, par exemple, de ce qu'est la curiosité, les émotions, le langage. Donc, par exemple, l'installation ErgoRobot, qui est ici à la Fondation Cartier, montre des robots qui jouent à ce qu'on appelle des jeux de langage, essaient de s'inventer des mots nouveaux pour parler de leur environnement. Et pour parler de cet environnement, ils utilisent des outils cognitifs qui leur permettent de différencier les couleurs, les formes, qui sont en particulier dépendants des propriétés de leur corps, de leur physique, et qui font qu'ils vont construire, par exemple, un lexique, mais surtout de manière plus importante, une ontologie, une manière de...
Vous dites une ontologie?
Oui, une ontologie, une manière de construire des catégories sémantiques du monde qui va leur être propre, qui va être partagée par eux-mêmes, qui va leur permettre de communiquer efficacement, mais qui ne va pas toujours forcément être directement compréhensible par un humain qui va les observer. Pourquoi? Parce que justement, ils ont des outils corporels et cognitifs qui sont différents des nôtres et qui vont les pousser à construire des représentations du monde qui sont différentes des nôtres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par contre, on connaît, parce que ce sont des robots qu'on a construits nous-mêmes, on sait exactement quels sont les mécanismes qui sont à l'intérieur.
Mais c'est fantastique de vous écouter, parce que là, on rejoint l'univers de la littérature, y compris dans ses outrances limites, mais c'est, je veux dire, Frankenstein, quand il construit avec amour son personnage, mais que ce personnage lui échappe, il a gagné ce que vous décrivez très bien, une forme d'autonomie et un autre rapport au monde. Bon, alors c'est Frankenstein, il n'est pas gentil, mais on peut peut-être rêver d'un jour d'un très gentil Frankenstein, et puis on n'en parlera plus. C'est à l'œuvre maintenant.
Oui, alors en fait, puisqu'on parle des robots et de Frankenstein, c'est vrai que très souvent, quand on parle de ces recherches, on peut effectivement avoir à l'esprit le danger que peut-être une de ces créatures prises de créativité, de curiosité, partirait dans la rue et partirait à la conquête du monde presque directement. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le développement moteur et intellectuel, c'est une structure si complexe que la science étudie depuis si peu de temps, à peine plus d'un siècle, ce qui à l'échelle de la complexité de ce problème et de la science est rien du tout. Que les machines qu'on construit aujourd'hui sont à des années-lumière de l'autonomie, de la capacité d'adaptativité d'un enfant de quelques mois. Par contre, on sait déjà construire des machines, et on a partout autour de nous des machines qui ont une complexité telle dans d'autres domaines qu'elles influencent le monde et qu'elles dépassent notre contrôle. Par exemple, les moteurs de recherche comme Google,
bien sûr, évidemment,
par exemple, sont des systèmes qui influencent le monde et dont aucun humain personnellement n'a une vision synthétique globale. Les réseaux de distribution d'électricité aujourd'hui, pareil, c'est la même chose. Ils sont construits un petit peu sur le même modèle. Ils ont une telle complexité que bien qu'ils aient été faits pour être les plus contrôlables et les plus utiles, on s'aperçoit de temps en temps qu'il y a des blackouts, évidemment involontaires. Parce que les machines sont devenues tellement complexes, et la maîtrise de la complexité de ces systèmes est d'ailleurs l'un des enjeux centraux de la recherche en informatique aujourd'hui.
Soyez géniaux, faites-les imparfaits, vos robots.
Mais c'est une des caractéristiques. Pour apprendre et pour se développer, il faut faire des erreurs. Tout à l'heure, j'entendais qu'il n'y avait pas de robots qui les robots devaient travailler. Ce n'est pas vrai. Les robots construits, au contraire, ils s'amusent, ils font des bêtises, et c'est la seule manière d'ailleurs de se développer et d'être curieux et créatif.
Il n'y a rien de mieux que l'erreur. Alors, Jean-Pierre Bourguignon, le mathématicien, chercheur au CNRS et surtout directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, va nous apporter une sorte de recul et de conclusion sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, mais il y a une chose que j'ai trouvée magnifique décidément dans ce livre publié à l'occasion de cette exposition. C'est une phrase d'un mathématicien français que je ne connaissais pas, d'ailleurs il y a tellement de choses que je ne connais pas, qui s'appelle Gustave Choquet. Et il dit « Le théorème que l'on cherche existe de toute éternité, mais pour le formuler, puis le découvrir, il faut inventer un chemin. » Vous êtes des ouvreurs de chemin ?
Alors d'abord, peut-être un clin d'œil à l'histoire. Il se trouve que Gustave Choquet a été mon premier directeur de thèse.
C'est pas vrai.
C'est le hasard de la vie, comme
écoutez,
ça. C'était pas
probabilité, Madame El-Khaoui, on est dedans à fond, là. Hein.
C'était pas prémédité. Disons que ce que traduisait Gustave Choquet dans cette phrase, c'est quand même une déclaration assez... disons qu'il existerait une réalité mathématique indépendamment des humains, qui n'est pas mon approche à moi. Mais malgré tout, je pense qu'on peut prendre au premier degré la déclaration de Gustave Choquet, parce qu'effectivement, la chose décisive, et en fait, cette exposition, un des enjeux centraux de cette exposition, est bien de traiter cette question, c'est justement que les mathématiques sont toujours en train de se faire, et que même leur objet est toujours en train d'être un objet qui est créé. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, la phrase de Gustave Choquet, en disant que nous devons trouver un chemin, c'est effectivement que, en permanence, il s'agit de reconstruire des choses, ou de construire des choses, si on les entrevoit pour la première fois. Et même quand on possède un chemin, bien souvent, la nouveauté mathématique vient du fait qu'on trouve un autre chemin.
Mais il y a une chose que vous... Alors ça, c'est aussi une des constantes, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en mathématiques, il y a la constante, évidemment. C'est que quand on cherche le chemin, vous dites tous, l'un des bons moyens de le trouver, c'est la beauté.
Oui, alors si vous voulez, oui, alors on le dit tout le temps et on le revendique même très fortement. Je pense qu'il faut faire peut-être un tout petit peu de retour sur ce mot beauté. D'abord, évidemment que la beauté, elle a une connotation culturelle. Mmh. Et que d'une certaine façon, la beauté des mathématiciens a aussi cette dimension culturelle que les mathématiciens ont un peu créé leur propre définition de la beauté. Mais quand même, disons que... Dans beaucoup de manifestations de la beauté, dans beaucoup de cultures différentes, un des éléments centraux pour que, disons, des civilisations s'accordent sur la beauté de quelque chose, c'est souvent la simplicité. C'est-à-dire d'aller à l'essentiel avec une économie de moyens qui s'impose à vous et qui, du coup, vous laisse pantois. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui, pour les mathématiciens, est très souvent un des signes de la beauté. C'est quand, brusquement, vous vous rendez compte que des situations, des objets, des faits que vous voulez relier entre eux, vous vous rendez compte que vous avez mis la main sur un cheminement qui les relie, qui est par rapport à ce qu'on savait avant, ou quelquefois qu'on ne savait pas du tout, et d'une simplicité, et d'une, disons, vous créez une voie directe dont vous n'aviez jamais rêvé éventuellement, et c'est ça qui du coup est une manifestation de la beauté, c'est l'économie de moyens et la possibilité d'identifier très vite que là, il y avait un rapprochement, une familiarité que personne n'avait repéré avant vous. Et donc là, effectivement, on est pris d'une sorte de vertige, un petit peu comme l'alpiniste qui fait une voie directe.
C'est drôle que vous disiez ça maintenant, parce que je ne cesse depuis tout à l'heure de regarder cette merveille de sculpture de Sugimoto, cette représentation d'un certain point de vue de l'infini, et on en arrive à nouveau à un paradoxe mathématique. Par définition, l'infini nous est inaccessible. Il est même difficile à définir, l'infini. Et néanmoins, je lis que Euclide a dit des choses très importantes. Une quantité infinie de nombres premiers. Donc si l'infini nous est inaccessible, néanmoins, il a été démontré qu'il existe une quantité infinie de nombres premiers. Comment c'est possible ?
Alors... Disons que il y a une façon, disons, simple d'aborder l'infini, et puis il y a brusquement la prise de conscience que l'infini nous échappe. Alors je vais essayer de dire ça. D'abord, quand Euclide, énonce l'infinité des nombres premiers, il le fait d'une façon extrêmement constructive. C'est-à-dire, et la démonstration est d'ailleurs accessible à des élèves très jeunes. Et tout simplement, ce que Euclide met en avant, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qu'est un nombre premier, c'est-à-dire un nombre qui n'a pas d'autre diviseur que lui-même et un, eh bien, en fait, ce qu'il montre, c'est qu'il construit très explicitement, si vous dites qu'il y a un plus grand nombre premier, il vous montre qu'il y en a un autre après. Donc ça veut dire que votre quête, que si vous pouviez énoncer la liste des nombres premiers et qu'elle s'arrête, en fait cet énoncé est faux, puisque dès que vous dites que ça s'arrête là, en fait ça s'arrête plus loin. Donc voilà une première façon de toucher l'infini, qui est une façon évidemment extrêmement forte, extrêmement percutante, mais qui n'épuise pas le discours sur l'infini, puisque très rapidement on se rend compte qu'il y a des infinis plus riches que cet infini-là. Ça, cet infini, c'est l'infini du dénombrable que je viens d'évoquer, et on se rend compte très vite qu'il y a des infinis beaucoup plus riches que le dénombrable. Et de ce point de vue, la conquête des infinis a été pour les mathématiciens une frontière, au sens où une chose qu'on n'atteint pas, et qui est même a fait trembler les mathématiques sur leur base, puisque brusquement, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, y compris dans le XXe siècle, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de discours qu'on avait sur l'infini était en fait absolument incorrect et simplificateur, et que ça a amené à repenser de façon radicale la relation que les mathématiciens avaient avec en fait avec la description de l'infini et des choses possibles, et ça les a obligés à revenir au fondement, absolument au fondement des mathématiques, et dans la façon dont on doit énoncer les axiomes les plus fondamentaux des mathématiques pour qu'on puisse parler de façon correcte et pertinente de l'infini. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'évoque Alain Cohn dans son film avec Raymond Depardon et Claudine Nougaret. C'est justement, il pose une sorte de défi autour de ça pour dire, attention, même les énoncés les plus simples peuvent renfermer des pièges parce qu'on n'a pas la bonne appréhension de l'infini.
Je regrette souvent qu'on n'ait pas une image qui permette de voir vos visages, vos uns et vos autres, quand vous parlez. Nous avons fait déjà une émission ensemble, M. Bourguignon, il y a un peu plus d'un an, qui déjà portait sur les mathématiques. Cédric Villani était là. Et j'étais sorti du studio en vous disant, mais c'est incroyable, vous vous amusez, vous avez un regard, vous avez une sorte de jubilation, mais c'est vrai aussi pour vous, monsieur Oudoyer, vous avez une sorte de jubilation. Donc il y a non seulement la question de la sensualité a été posée tout à l'heure, s'agissant des mathématiques par Jean Pierrot, mais oui, de plaisir qui vous habite. Il y a du plaisir dans les mathématiques, quoi, à répondre au mystère, au fond, à quoi ?
Disons qu'il y a deux dimensions peut-être qu'on peut évoquer à propos de ça. La première dimension, c'est une dimension alors qui est presque enfantine, qui est le fait que, enfin, en tout cas, c'est une expérience, je crois, que toutes les personnes ont faite, mais en particulier qu'on fait déjà quand on est enfant, c'est que le jour où on arrive à maîtriser quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, il y a une sorte de victoire sur soi, et que de ce côté-là, les problèmes mathématiques ont le bon goût à répétition, donc, et pour pas cher, en plus, de vous proposer des défis, et que du coup, dès que vous résolvez un défi, il y a une sorte de satisfaction, et que je qualifie d'un peu enfantine. Alors, on peut espérer aller un peu au-delà, et dire que dans la jubilation des mathématiques, il y a brusquement le fait qu'un certain nombre de faits que vous avez appréhendés et que vous aviez l'impression d'avoir classé dans votre tête dans des tiroirs un peu indépendants. Et alors là, une jubilation d'une autre dimension, qui est de se rendre compte que brusquement, des choses dont vous pensiez qu'elles appartenaient à des mondes qui n'avaient rien à voir entre eux, en fait, vous les mettez en relation. Et alors là, vous vous rendez compte que vous avez entre les mains un outil d'une puissance extraordinaire.
Mais même à vous écouter, il n'y a pas de tiroir, hein.
Ah oui, mais quand même, il y en a. Et je voudrais,
quelques-uns quand même, oui.
À ce titre-là, raconter très brièvement, bien entendu, une sorte d'anecdote qui est comment est-ce qu'on arrive à ça. Par exemple, il se trouve qu'il m'est arrivé, mais tous mes collègues pourraient dire des choses de ce genre-là, je cherchais un problème depuis un certain temps, et à un moment, j'avais vraiment le sentiment que j'avais mis la main sur les outils nécessaires pour le résoudre. Et en fait, je ne l'avais toujours pas résolu. Et c'était une frustration, là, ce n'était pas la jubilation, c'était la frustration qui a duré quand même 3 ou 4 ans, jusqu'à ce que, brusquement, écoutant une conférence sur un sujet radicalement différent, quelqu'un raconte une chose assez élémentaire, que j'aurais pu penser tout seul, que j'avais été incapable de penser tout seul, et brusquement, en entendant ça, qui n'avait rien à voir avec mon problème, je me suis rendu compte qu'il y avait dans cet énoncé élémentaire exactement le morceau, la brique qui me manquait pour faire le théorème. Donc je me suis précipité dans mon bureau, j'ai vérifié que je n'avais pas juste une hallucination, que c'était bien le cas, et donc là c'était la jubilation, parce que ça veut dire deux choses. D'abord, que mon sentiment que j'avais effectivement la partie dure, que je l'avais maîtrisée, mais qu'elle n'est pas la réponse, et qu'en rajoutant un tout petit truc, qui venait d'ailleurs, parce que j'écoutais un collègue qui racontait complètement autre chose, il manquait la pièce qui faisait que cette fois, oui, j'avais vraiment trouvé le résultat. Donc c'est sûr que quand on arrive, quand on vit cette situation, c'est un peu plus que la jubilation enfantine. C'est-à-dire, il y a eu le sentiment qu'une sorte de pari qu'on avait fait, une sorte de sentiment disons, d'avoir apprécié à sa juste valeur une percée qu'on pensait avoir faite, était en fait un jugement justifié. Parce qu'on peut aussi se leurrer, et on se leurre très souvent.
Mais en tout cas, vous savez, ces révélations, quelquefois, elles prennent du temps. J'ai lu là aussi dans ce livre que le dernier théorème de Fermat remonte à 1637. Il a été démontré par un monsieur qui s'appelle Andrew Wiles en 1995. 1637, 1995. Il a fait comme vous, Wiles. Peut-être qu'il a entendu quelque chose quelque part et qu'il a fait la jonction, non? Un peu plus que ça.
Non, là, il faut vous parler de quelqu'un qui est une... Enfin, ça a été une des plus grandes aventures de l'histoire des mathématiques, d'une certaine façon. D'abord parce que les plus grands mathématiciens de tous les siècles, entre Fermat et Wiles, ont travaillé dessus, ont séché. Et que la façon dont Wiles a finalement abouti à la solution est un long cheminement et un petit peu de la nature que j'ai essayé d'évoquer, à savoir que grâce à des architectes comme André Weil ou quelques autres, brusquement un certain nombre de sujets qui dans le monde des mathématiques étaient non reliés, André Weil a proposé une sorte de vision, comment dire, un peu... complètement non justifié, enfin une sorte de rapprochement de territoire complètement rêvé, et qu'un certain nombre de gens, alors cette fois comme Andrew Wiles, ont montré que grâce à cette, disons, lisibilité qu'on donnait, ou plutôt au nouveau contenu qu'on pouvait donner à la formulation du théorème de Fermat, à ce moment-là, il devenait accessible à des mathématiques. Mais malgré tout, dans le cas de ce théorème, pour Andrew Wiles, un travail acharné de probablement une bonne dizaine d'années et complètement acharné de plusieurs années qui lui ont vécu de vivre presque reclus dans son grenier pendant 2 ou 3 ans. Ce qui prouve à quel point l'idée qu'on puisse programmer la recherche à 2 ou 3 ans est une bêtise.
Mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais citer, pour faire plaisir à Michel Cassé, en conclusion, un autre astrophysicien, par rapport à cette question de la temporalité, patience dans l'azur, forcément. Et puis si, on a tous des frustrations, parce qu'on aimerait que passer des heures avec vous à vous écouter, venez voir quand même, si vous n'avez pas encore visité cette exposition, entre autres choses, les robots de Pierre-Yves Houdayer, parce qu'ils n'ont pas de regard, et néanmoins ils nous regardent. Et c'est assez troublant. C'est assez troublant ce que vous avez fait là.
Et ils ont le plaisir d'apprendre. Ce sont de petits mathématiciens.
Oui, ça se voit. Oui, ils sont malicieux.
Mais c'est ce qui se passe dans leur cerveau. C'est exactement le mécanisme, la curiosité. C'est s'intéresser aux choses qui au départ semblent floues, imprécises, et pour lesquelles on découvre une structure. Et tout d'un coup, il y a un A. Et ça, on peut le modéliser mathématiquement.
Mais c'est même incroyable. C'est que les mouvements de leur corps nous montrent à quel point ils sont malicieux. C'est-à-dire qu'un mouvement est incroyablement bavard, finalement. Un petit baiser, Manon.
Un petit baiser.
C'est des maths aussi, hein, finalement.
Oui, mais vous allez tout comprendre ce que je dis, c'est sûr.
Ben, allez, tentez le coup.
J'ai longtemps cru que la phrase de Copernic, les mathématiques ne sont écrites que pour les mathématiciens, était vraie. Et la migraine qui me prenait à chaque fois que je rentrais en cours de maths me confortait dans ce sens. Mais c'était le temps des maths et non des mathématiques, et ce n'est pas la même chose. Les maths, même dites modernes, c'est poussiéreux, ennuyeux, austère, rasoir. Mais les mathématiques, c'est mystérieux, passionnant, ludique, voire poétique, et pour certains, des énervés du slip. C'est érotique, donc fantastique. Que de déliés, de rondeurs, de courbes, de raideurs, dans ces chiffres qui forment les nombres. Des chiffres au-dessus, en dessous, parfois séparés par un trait, ils ne peuvent se toucher, summum de la sensualité. Et pourtant, en une fraction de seconde, une opération donne naissance à un résultat. Le chiffre est fertile, subtil et parfois tellement incompréhensible qu'on dirait un langage secret pour initier, un peu comme l'écriture à l'encre sympathique. On peut alors rêver d'espionnage, de langage codé. Une fenêtre ouverte sur d'autres mondes, pas toujours réels. Mais si on ose, si on s'aventure sur les chemins de l'onirisme où les poètes et les savants marchent côte à côte, on y croise le nombre parfait, le nombre d'or, le nombre transcendant, irrationnel, primitif aussi, bien que celui-ci ait pris du grade, car après avoir été nommé entier, le voici maintenant naturel. L'alchimie aussi peut s'inviter à mi-chemin entre la poésie et les mathématiques, entre le monde des symboles et celui des nombres. Pour certains, le jour qui se lève fait le matin des magiciens. Il paraît que tout est mathématique, même la musique, surtout celle de Bach. Les chiffres seraient donc polymorphes et se transformeraient en notes de musique. Et si tout est mathématique, tout est mouvement aussi, et donc rien n'est immuable, même les grandes découvertes. En 1978, un éminent chercheur japonais avait jeté une pierre dans la mare des scientifiques qui n'aiment pas que l'on fasse des ronds dans l'eau. Il avait des doutes sur la formule d'Einstein, E égale mc2. À l'époque, tout le monde lui a ri au nez. Il y a 7 ans, il est revenu à la charge et a encore été ridiculisé. Mais, il y a un mois, dans les médias, des physiciens ont émis de sacrés doutes sur la formule d'Einstein, s'appuyant sur l'observation de la physique quantique. Rappelons-nous les différents d'Einstein avec Niels Bohr et Heisenberg. En mathématiques, le mot « évident » est le mot le plus dangereux, et le mot « axiome » le plus énervant, peut-être même le plus absurde. Une vérité qui doit être admise et qui n'a nul besoin de preuves. On ne discute pas, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il faut croire sans comprendre, adhérer sur une base uniquement théorique à ce qui peut être qu'une illusion. On peut alors nous mener où l'on veut. Mais comme l'a écrit Louis Powells, les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que quand ils sont ouverts. Et moi je rajouterais, ouverts au tout possible qui nous tend les bras, surtout si on nous dit qu'il est inaccessible.
Mais ça, finalement, il y a toujours une question qui revient. Est-ce que tout ça est vrai? Et même ce qu'on vient de faire? Pas sûr, hein? Pas sûr du tout, finalement. Et c'est pas mal comme ça aussi. Alors, non, ce qui est vrai pour de bon, c'est de dire merci à ceux qui nous ont permis de faire cette émission ici, dans un tel confort. Je voudrais vraiment remercier Jean-Marie Porcher. Quand il n'est pas en train de courir en Irak en essayant d'éviter les bombes, il est ici à la Fondation Cartier. Jean-Guilain Meige, Isabelle Limousin, merci vraiment à vous. Et puis c'est Didier Sudre qui a préparé le studio dans lequel nous sommes. Et c'est plus beau que chez nous, avenue du Général Mangin. À Mangin d'ailleurs, il y a Guillaume Roux, il y a David Federman, il y a Alain Gadan, il y a Benjamin de la Gâtinais qui ont rendu aussi ce 3D possible. Et puis c'est toujours ma chère Camille Blanès qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci Camille. Et c'est Stéphane Cohn qui l'a réalisé. Merci à vous d'écouter France Inter. Il est 14h30. Et on retrouve